France Inter, le 13-14, à l'école Jean Pesnec, c'est la rentrée.
Et oui, de retour ici, école primaire Jean Pesnec à Saint-Florentin dans l'Yonne. 15 classes en tout, 230 élèves qui ont fait leur rentrée ce matin. Nous sommes donc dans la cour de récréation désormais, sous le préau précisément, avec ses piliers peinture lurée, toutes les couleurs. Et toujours à mes côtés, Jean-Marc Gaillard, le directeur de l'école. Monsieur Gaillard, je vois marqué au sol, là, sur dans la cour de récré, des marques bleues, comme pour garer sa voiture, sauf que j'imagine que c'est pour les classes. Comment est-ce qu'on évite que les élèves se mélangent trop dans la cour de récré? Quelles sont les règles cette année?
Alors, les règles sont les même que l'an dernier. Hein, le brassage entre les classes est interdit, sauf si, en cas d'impossibilité. Au collège et au lycée, c'est un peu différent. Mais en école primaire, en maternelle, le brassage entre les classes est interdit. Donc, une des solutions que nous avons trouvées, c'est effectivement de mettre au sol des marquages dans lesquels, vous voyez, les élèves arrivent tout seuls. Oui. Ils ont pris l'habitude. Et ils attendent pour après passer pour se laver les mains, le passage aux toilettes et lavage des mains.
Ça marche cette histoire de marquage parce que ça doit être compliqué. Là, ils sont tous en train d'arriver. Oui. Mais effectivement, ils se mettent à peu près dans les marques.
À peu près.
À peu près.
À peu près. Hein. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas, regroupés d'une façon massive au milieu de la cour à discuter entre eux.
Et l'idée, c'est de ne pas mettre la pression en permanence non plus. J'imagine que c'est trouver un équilibre.
Voilà. C'est trouver l'équilibre entre les deux.
Nous avons rejoint Tamida Abouraïm. Bonjour. Vous êtes infirmière scolaire à Saint-Florentin et alentour. Votre rôle à vous, un de vos rôles, vous en avez beaucoup, ce sera le contact tracing. Alors, le traçage de contact, pour le dire en français, repérer les cas contacts. Alors, ici, à l'école, s'il y a un cas de Covid, la classe ferme, c'est assez simple. Au collège, de l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué. S'il y a un cas de Covid, les élèves cas contact et non vaccinés devront passer à distance. Comment on les repère? Comment ça va se passer?
Alors, quand on a un cas confirmé au collège, on va devoir, avec toute l'équipe, faire un petit listing des élèves qui auraient pu être en contact avec ce cas confirmé. Oui. Pour ça, par exemple, les lieux à risque, ça va être la demi-pension, parfois les cours de PS, même s'il n'y a pas de contact physique, pas de sport rapproché, mais il n'y a pas de port du masque. Dans ces moments-là, par exemple, à la demi-pension, on a des plans de table, ce qui nous permet de pouvoir savoir quel élève a mangé à côté de qui et de pouvoir faire ce tracing. Et donc,
On repère les familles aussi, j'imagine.
On contacte par la suite, une fois qu'on a repéré les élèves, on contacte les familles pour les informer, pour leur donner toutes les informations nécessaires pour la suite, donc le rendez-vous médical qui va s'imposer, et leur demander également de pouvoir venir chercher l'enfant qui devra, s'il n'a pas eu de schéma vaccinal complet à partir de 12 ans, être isolé à domicile.
Et les frères et sœurs sont cas contact aussi, évidemment, dans ce cas-là.
Avec la même règle, en effet, du schéma vaccinal qui entre en jeu, mais qu'à partir de 12 ans.
Jean-Marc Gaillard, vous me racontiez tout à l'heure qu'il y a pas mal de familles nombreuses à l'école et au collège. Quand il y a un cas contact, ça veut dire que potentiellement, les frères et sœurs, ça fait 5, 6 enfants.
Ça peut faire 6 classes, effectivement. Ce qui est arrivé l'année dernière entre mon collègue et moi-même, puisqu'une des familles a été testée positive. Et du coup, sur l'école Pommier Janson, 4 classes ont été fermées. Chez nous, 2 classes. Donc un enfant, enfin un cas positif, 6 classes fermées.
Vous vous dites que vous n'échapperez pas à des fermetures de classe?
Je pense pas, j'ai un cas là, l'enfant n'est pas arrivé, donc je ferme pas de classe.
Oui.
Mais j'ai une famille actuellement qui est testée positive, donc ils restent chez eux jusqu'au 13 septembre. Les enfants reprennent qu'après.
La pression dès le début, dès le premier jour d'école. Avec nous également, Cilia Bouzoni, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'association des parents du collège. Vous avez, je crois, un enfant au collège, un autre en primaire.
Également.
Est-ce que le protocole est clair pour vous, les parents d'élèves?
Alors, le protocole est clair dans le sens où on en est informé, notamment par le collège via les conseils d'administration, et il nous est régulièrement communiqué à chaque changement. Après, son application dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué à la fois à mettre en œuvre et à la fois à comprendre par les parents.
Qu'est-ce qui est compliqué ?
Les incompréhensions, le fait que... Alors, on comprend qu'il faut mettre tout un tas de choses en place pour éviter les contaminations multiples, mais on a du mal à comprendre que, par exemple, dans les classes, il faut qu'ils soient absolument séparés, mais ils arrivent en bus scolaire, tous mélangés, il n'y a pas de gel à l'entrée des bus... En cours de récré, on se doute bien que il y a forcément des contacts. Oui. Et puis, la majorité des enfants...
Je peux vous dire que Monsieur Gaillard surveille, là, en même temps.
La majorité des enfants ont aussi des activités extrascolaires.
Bien sûr.
Sportives ou non. Et dans ces cas-là, ils sont tous mélangés. Mmh. Donc, c'est là où l'incompréhension, des fois, se fait.
Allez-y.
Heureusement, je pense que ça affecte plus les parents que les enfants qui restent, heureusement, assez insouciants.
Vous avez l'impression, oui, qui traversent ces mois-là dans une relative insouciance, que ça ne pèse pas sur eux ?
Tant qu'on est à l'école et pas à la maison, je pense que le port du masque et le respect des gestes barrières, c'est ça vraiment au bout d'un an et demi, là, et les enfants sont habitués. Je pense que le plus traumatisant pour eux, c'est d'être exclus de classe et d'être coupé de lien social avec leurs camarades et de l'efficacité de l'enseignement.
Néanmoins, vous comprenez qu'au collège, des enfants non vaccinés puissent être passés à distance quelque temps s'il y a un risque de transmission du virus.
Alors moi, je respecte tout à fait la décision de chacun des parents et je comprends l'isolement dans le sens où finalement, on sait que la majorité des gens qui sont hospitalisés aujourd'hui sont pas vaccinés. Donc quelque part, pour moi, c'est aussi un moyen de les protéger, d'attraper quelque chose et de finir en service de réa.
Question personnelle, si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Vous êtes vacciné, votre enfant au collège l'est également.
Nous sommes tous vaccinés dans la famille, donc les deux adultes et les deux enfants. C'est un choix que j'ai fait dès l'annonce du président de la République
en juillet,
pour que mon fils ne soit pas privé d'activité pendant les vacances. Et aussi parce qu'on a été confronté au Covid à la maison. Donc mon fils l'a attrapé au collège. Asymptomatique, donc on l'a pas su tout de suite. Donc c'est aussi une difficulté pour repérer les enfants. J'ai été moi-même contaminée. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment la chaîne de contamination. Quand on est contaminé, on se dit mince, il faut que je prévienne telle personne. Et ça a vraiment un impact majeur, même si on a fait attention. Et c'est préoccupant et je voulais me débarrasser de cette préoccupation.
Tamida Abourahim, ça marche la vaccination ici ? Il y a eu un centre dans le coin, ça marche bien, ça se passe bien ?
Oui, ça fonctionne bien, notamment chez les jeunes dans Lyon, où on sait qu'ils sont plutôt bien vaccinés. On était sur des chiffres assez importants, donc oui, ça fonctionne.
Bon, merci à toutes les deux d'être venues ici à l'école participer à cette émission. Jean-Marc Gaillard, vous allez me montrer le CDI. On va monter, on va parler de classe dédoublée.
Oui.
Vous allez me montrer le chemin, on va grimper ensemble.
Allons-y.
Alors, avant cela, eh bien, je voudrais qu'on fasse un dernier éclairage sur le protocole sanitaire. La cantine. Et là, vous entendez, ça résonne parce qu'on est en train de monter l'escalier, cet escalier à petits carreaux, la peinture bleue. Je vais juste poser mon cahier pour relire mes notes. Et pour pouvoir présenter le témoignage qu'a recueilli Béatrice Duguay, c'est celui de la principale du collège, Marlika Zerouki, à propos de la cantine, les mesures prises pour éviter que ce soit un lieu de contamination. On écoute Marlika Zerouki.
Vous choisissez votre entrée, ensuite vous prenez un privilège.
Nous allons laisser les élèves de 6e s'installer selon leurs affinités, parce que la plupart se connaissent aussi de l'année d'avant, et on va prendre une photo. Ainsi, lorsqu'il y aura un cas positif, il nous sera davantage facile de déterminer qui était cas contact. Puisque pour nous, dans les établissements scolaires, le point sensible, c'est bien le 7. Étant donné que l'an dernier, nous avions constaté que les enfants n'étaient pas très satisfaits du fait qu'ils ne déjeunaient pas avec leurs copains et leurs copines, on a pensé là mettre en place ce scénario, à savoir qu'ils vont déjeuner avec leurs copains-copines. Ça participe justement au moral des troupes, si je puis dire.
Mais regarde, c'est là. Regarde. Donc, t'as la petite faim, là, et la grande faim.
C'est plutôt une grande faim. Bon appétit.
Merci.
Voilà pour le témoignage de la principale du collège juste à côté. On a fini avec le directeur Jean-Marc Gaillard de monter les escaliers. On est au premier étage, on vient d'entrer au CDI. Et juste à côté du CDI, il y a une classe de CP qui est celle d'Isabelle Benquesetira. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que je peux jeter un œil à votre classe ?
Allez-y.
On va parler de classe dédoublée dans les 10 minutes à venir. Et là, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites têtes. Une classe complète, c'est 6 enfants ? Vous les avez tous, là ?
Non, je ne les ai pas tous. Normalement, je devrais avoir 9 élèves.
Ouais.
Donc, j'ai un élève qui est cas contact,
qui
ne rentrera que le 13. J'ai une élève qui est en situation de handicap, donc que je n'ai pas à plein temps, que je vais rencontrer mardi. Et j'ai eu une élève qui n'était pas là ce matin. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles.
Ça change quoi d'avoir 6, 9 élèves quand la classe est complète? Ça change quoi pour vous?
Ça change que je les connais. Je vais pouvoir bien apprendre à les connaître.
Ouais.
Leur qualité, leur connaissance, leurs difficultés.
Ouais.
Je vais être beaucoup plus disponible pour eux. Je vais pouvoir adapter mon enseignement à leur profil.
Ouais.
Je vais aussi pouvoir être beaucoup plus dans la relation avec les familles.
Ouais.
Moins d'élèves, moins de parents, et du coup, je suis plus disponible pour tous les rencontrer et travailler avec eux.
Ça fait pas mal de choses déjà.
Ça fait déjà pas mal de choses. Ouais. Le dispositif a aussi, nous, dans l'école, lancé un travail d'équipe. À redynamiser le travail d'équipe. Donc du coup, voilà, on a réfléchi sur nos pratiques, on a essayé de dire, voilà, on a un dispositif, c'est pas pour qu'on enseigne de la même façon. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place?
Bon, on va détailler ça, on va continuer. Les enfants, vous voulez bien me prêter votre maîtresse juste 5 minutes et après je vous la rends? Ok, je vois des petits oui qui se font un peu timides derrière les masques, puisque même en CP, on est masqué. On va se réinstaller à la table du 13-14, le temps de laisser mon micro à chef et de récupérer celui du studio. Jean-Marc Gaillard, vous aussi, vous vous installez, je vous fais faire beaucoup de kilomètres et beaucoup de pas. Combien de classes dédoublées? On rappelle la mesure mise en place au début du quinquennat dans les établissements classés réseau d'éducation prioritaire. Vous, vous avez combien de classes dédoublées?
Actuellement, j'en ai 7. J'ai 2 classes en grande section,
oui.
J'en ai 3 cette année en CP et 2 en CE1. Donc c'est vrai que ce sont des moyens importants qui sont mis à la disposition des écoles.
Grande section aussi.
Oui.
C'est la nouveauté de l'année, grande section.
De l'année dernière.
De l'année dernière. Quel effet?
Très bénéfique. Comme l'a dit ma collègue, en termes d'apprentissage, c'est vrai que les enseignants connaissent beaucoup mieux leurs élèves. En termes de travail d'équipe, on voit qu'au niveau de, que ça soit en grande section, en CP, en CE1, les équipes sont beaucoup plus soudées, ils travaillent plus ensemble, ils partagent, ils s'échangent des documents. Alors il y a aussi eu un effet Covid qui a permis aussi effectivement ceci, en pensant à comment la continuité pédagogique et l'appropriation de nouveaux, enfin d'outils qui existaient, mais de l'outil numérique. Donc tout ceci font que, tous ces outils, tous ces dispositifs font qu'effectivement on le constate, on note. Alors c'est pas quantifiable parce qu'il faudrait un échantillonnage
bien
particulier
sûr.
Pour voir si effectivement quelle est la part. Mais que ce soit mes collègues, nous par exemple, l'année dernière, on s'en est rendu compte après Covid, quand à rentrée. Les premières évaluations de septembre, elles étaient moins bonnes que d'habitude.
Oui.
Donc on était relativement inquiets, donc on s'est réunis, on a réfléchi. Et ce qui a pu être mis en place, et je pense cette promiscuité, cette disponibilité des enseignants par rapport aux élèves, a permis qu'en janvier, lorsqu'on a refait les évaluations nationales au CP, on s'est aperçu qu'on avait très largement comblé le déficit qu'avait causé l'enseignement à la maison.
Deux invités de plus autour de la table ici dans le CDI. Il faut décrire un peu les lieux parce que c'est vraiment le CDI de rêve. Il y a plein de livres de toutes les couleurs. Je vois la collection d'école des loisirs. Il y a encore des encyclopédies chez vous, monsieur Gaillard.
Oui.
Ok.
Oui, bon. Oui.
Des jeux de société, des périodiques. Il y a la charte de la laïcité, le texte de la Marseillaise et puis une peinture vert tendre. Voilà, on est passé du bleu de l'escalier au vert du CDI. Et avec nous, El-Kabir Charty, bonjour.
Bonjour.
Vous avez deux enfants ici, je crois, Jean Pesnet.
Alors ici à l'école primaire, oui, j'ai un seul enfant et un enfant au niveau de l'école maternelle.
En maternelle. Et Eve de Souza, bonjour à vous.
Bonjour.
Deux enfants aussi, l'un entre en CP, l'autre en CM1, c'est bien ça. Pour vos enfants, ces classes, ces toutes petites classes, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'ils vous en disent? Comment vous le vivez, vous, en tant que parent d'élève?
Je vais commencer. Moi, j'ai pu voir un peu le...
Très poli, je note.
Moi, j'ai pu voir un peu le bénéfice que ça a pu apporter à mon fils.
Oui.
Je pense que le fait d'être en petit comité permet à l'institutrice de mieux adapter ses cours au travers des évaluations qui sont faites en début d'année. L'idée, c'est de créer un plan d'action et de pouvoir, à ce moment-là, emmener tout le monde vers un objectif commun et d'éviter de laisser derrière ceux qui ont plus de difficultés.
Ouais.
Ce que j'ai pu, moi, vivre quand j'étais plus jeune, où on était dans des classes de 30 élèves, et forcément, il y a des décalages. Certains sont plus à l'aise que d'autres, ont plus de facilité que d'autres.
Ouais.
Et l'idée, c'est d'amener tout le monde à l'objectif qu'on se fixe au début d'année.
Même remarque, Eve de Souza.
Exactement pareil. Moi, j'ai mon fils qui a quelques difficultés.
Oui.
Et du coup, quand il était en classe dédoublée, forcément, la maîtresse avait plus de temps pour lui. Elle pouvait adapter son travail. Et quand il s'est retrouvé l'année dernière en CE2, là, il s'est retrouvé dans une grande classe avec plus de 20 élèves. Et du coup, un peu perdu. Et la maîtresse avait beaucoup moins de temps pour lui. Ouais. Il faut travailler autrement et approcher les choses autrement, et c'est plus compliqué.
Alors voilà, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire à cette réforme, c'est-à-dire qu'on apprend un peu moins l'autonomie aux enfants, peut-être.
Enfin, l'autonomie, elle est apprise. Mais quand on a un enfant qui a des difficultés, qui a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui et qui va difficilement vers les autres, quand il se retrouve dans une classe avec plus de 20 élèves, forcément, il se sent tout seul dans son petit coin et c'est plus compliqué. Ouais.
Je précise que les élèves d'Isabelle Benkensitira ne disent pas un mot à côté, on ne les entend pas. Je ne sais pas ce que vous leur avez fait avant.
Juste pour
vous,
réagir.
Vous voyais lever la main, pardon, vous vouliez réagir.
Oui, par rapport à l'autonomie, ils apprennent à être autonomes parce qu'ils savent qu'il faut se mettre au travail. Il y a quand même des habitudes qui sont mises en place. La seule différence, c'est la disponibilité de l'enseignant face à la difficulté. Ouais. Ils ont une difficulté, ils savent que systématiquement, on va être disponible pour y répondre. Ils vont pas rester devant leur difficulté à ne rien faire et un peu démunis. On est tout le temps, enfin, voilà, ils savent qu'ils peuvent facilement nous demander de l'aide et qu'on sera là pour y répondre. Et ou alors, on aura mis quelque chose en amont qui les empêchera d'être en difficulté finalement.
Jean-Marc Gaillard.
Oui, par rapport au fait de l'autonomie, les dispositifs à effectifs réduits sont accompagnés.
Oui.
Dans Lyon, il y a eu beaucoup de disponibilité et de moyens mis en place pour que on aide et on accompagne ces enseignants, effectivement, comme l'a dit Madame Benkensitira, à enseigner différemment. Et une des problématiques que nous avions repérées assez tôt, c'était le fait qu'effectivement, ce passage effectif réduit CE1 au
plus
CE2.
Classe, ouais.
Alors, on avait dans l'école, dans d'autres écoles aussi, mais je parle de notre école, puisqu'on avait pensé à certaines choses, comme rassembler les classes de CE1 en fin d'année pour travailler en grand groupe. Mais l'effet Covid, sanitaire, on ne pouvait pas brasser les classes, ce qui fait que ça n'a pas été possible pour ces enfants-là.
Il y a l'Institut Montaigne, un cercle de réflexion qui a dressé un bilan de ces classes dédoublées, qui dit notamment que ça marche mieux en maths qu'en français. Est-ce que les deux parents d'élèves, vous avez noté ça, vos enfants, est-ce que ça marche plutôt mieux en maths qu'en français ou...
Je vous le confirme, oui, ça marche mieux en maths qu'en français. Je pense qu'il a des difficultés au niveau de la lecture concernant mon fils. Et l'idée, c'est de travailler sur cette faiblesse pour pouvoir progresser et être plus à l'aise à l'avenir, quoi.
F de Souza.
Moi, il a des difficultés en lecture, mais j'avais pas fait le rapprochement avec ça, donc.
Isabelle Benkensitira, est-ce que il y a aussi parmi les reproches adressés par l'Institut Montaigne à cette réforme la question du recrutement des enseignants? L'Institut dit au fond, ok, c'est très bien de mettre en place ces classes dédoublées, mais dans ces établissements réseau d'éducation prioritaire, puisque c'est eux qui sont visés, il faut aussi qu'il y ait des enseignants expérimentés, et il y a encore des enseignants trop jeunes qui arrivent sur le terrain. Est-ce que l'équipe éducative ici, elle a quelle expérience? Et est-ce que pour être face à des enfants en réseau d'éducation prioritaire, faut avoir déjà un peu de bouteille?
Je ne sais pas s'il faut avoir un peu de bouteille, il faut avoir envie, je crois, parce que c'est quand même pas le même public. Il y a une grosse part d'envie, et surtout dans la relation avec les familles.
C'est pas le même public, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui change?
L'importance de l'école, pour eux. Je veux dire, j'ai l'impression que l'école, elle a quand même une part très importante, un rôle à jouer pour apporter à tous les élèves les chances d'y arriver. Et je pense que l'école, en REP, je pense qu'elle a vraiment son rôle à prendre.
L'importance de l'école, les deux parents d'élèves, El-Kabir Charty.
Moi, je rejoins ce que dit Isabelle. Ouais. Je pense que c'est un moyen de gagner, de parvenir à un objectif qu'on peut se fixer. Moi, j'insiste auprès de mon fils, de mes enfants, à aller avec le plaisir à l'école, à apprendre. Isabelle pourra dire un peu ce qu'elle en pense, mais l'idée, c'est vraiment de s'épanouir à l'école, de venir pour apprendre, pour échanger et pour éventuellement échanger avec ses institutrices, échanger avec d'autres personnes pour grandir tout simplement.
Il y a bien des moments où il ne doit pas avoir envie d'aller à l'école, rassurez-moi.
Alors, Isabelle pourra le dire, mais...
Sinon, je vous donne les miens. Hein.
Alors, ça vient pas de moi. Hein.
Non, ça vient de nous.
Ça vient de vous, voilà.
Quel est le profil des enseignants ici à Jean Pesnec, Jean-Marc Gaillard?
Alors, pour répondre à votre question sur le recrutement, le recrutement, il est dans Lyon, il a été volontairement fait... Il y a eu des profils, c'est-à-dire que tout le monde ne pouvait pas postuler, il y a eu des sélections. Soit les gens étaient dans l'école et ça relevait du directeur qui indiquait à notre supérieur, à notre hiérarchie, que tel était l'enseignant pouvait effectivement était nous semblait apte à enseigner, ce que j'ai fait, ou sinon il passait des entretiens. Il y a eu des entretiens et après on les a accompagnés. Enfin, j'ai participé à ces formations sur les années passées, le Covid y a mis fin, mais il y avait un accompagnement conséquent pour que les enseignants disposent des bons outils. Face dans l'école, j'ai la plupart des enseignants qui enseignent dans les classes à dispositif réduit sont des enseignants. Alors, même s'ils sont jeunes, comme Madame Menkina, sont chevronnés. Ils sont compétents. Donc voilà. Non, j'ai pas de soucis sur ce niveau-là. Voilà.
Je voudrais qu'on dise un mot également des évaluations en début de. Alors, c'est en début de CP.
Et en début de CE1.
On en a déjà parlé à travers deux réponses depuis tout à l'heure. Ils ont été assez critiqués, elles ont été assez critiquées, ces évaluations. Peut-être, d'abord, elles ressemblent à quoi, ces évaluations, Isabelle ?
Alors, c'est des évaluations en domaine français et mathématiques.
Elles arrivent quand, là ?
13 septembre.
13 septembre, oui, chef.
Elles arrivent très tôt dans l'année. Elles vont nous permettre d'avoir ça nous donne le profil de notre élève et quelles sont les difficultés qu'il a à l'entrée du CP. Ouais. Les difficultés auxquelles va falloir que je réponde le plus rapidement possible pour qu'après il puisse vivre une année de CP correcte.
Ça permet d'avoir un dialogue avec les parents. Les parents sont mis au courant de manière détaillée de ces évaluations. Eve de Souza.
Moi je l'ai vu pour mon grand maintenant et déjà, le fait que ce soit dégroupé aussi, on voit beaucoup plus souvent la maîtresse, on peut plus souvent s'entretenir avec elle. Et du coup, elles nous disent où ça va moins bien, parce que on dit pas que ça va pas bien, on dit que ça va moins bien pour valoriser l'enfant et nous dire où est-ce qu'il faut travailler un peu plus, quoi.
Jean-Marc Gaillard.
Oui, alors les évaluations, c'est aussi un outil de travail, c'est-à-dire qu'on doit s'approprier au niveau de l'école. Au niveau de l'école, on conseille des maîtres, on regarde ce qu'on nous donne, on peut comparer par rapport aux évaluations nationales parce qu'on arrive à avoir les données nationales, voir où on se situe et choisir des axes de travail. En mathématiques, si on se dit que c'est la résolution de problèmes ou la géométrie qui pose problème, on va mettre, l'année dernière, on a mis en place ce que j'ai appelé Maths en ville, justement, pour travailler sur la géométrie plus que dans d'autres domaines parce qu'on s'était aperçu que c'était un des domaines qui était fragilisé. En lecture, en CE1, par exemple, l'an dernier, ils ont travaillé plus particulièrement sur l'affluence. Donc ces évaluations, elles permettent effectivement, comme l'a dit Isabelle, de déterminer quels sont les points qui nous semblent prioritaires à travailler.
Une dernière question aux deux enseignants. Est-ce que cette année et demie de Covid s'est traduit par des difficultés particulières pour les enfants ?
Je dirais plutôt que c'est pour les familles que ça a mis en difficulté. On s'est aperçu lors du premier confinement que les familles au démarrage, les enseignants ont mis tout ce qu'ils pouvaient. Ils se sont appropriés des moyens nouveaux, des moyens numériques. Ils ont mis des padlets. Sauf que au bout de la chaîne, vous parliez tout à l'heure des familles nombreuses, me vient à l'idée cette famille de 7 ou 8 enfants, 8 niveaux différents, avec pour seul moyen un téléphone portable pour recevoir. Ils avaient malgré tout une imprimante, mais l'imprimante vite saturée. Donc avec mon collègue du RAZ, Monsieur Vernat, on a fait les postiers, c'est-à-dire qu'on a récupéré, on venait à l'école, on faisait les photocopies et on allait distribuer le travail aux familles.
Et d'ailleurs, en un mot, vous vous voyez repasser à l'enseignement à distance ?
Si nécessaire, on y est prêt.
Vous y êtes prête, Isabelle ?
Nous, on y est prêt, mais après, il faut accompagner les familles. C'est plutôt du côté des familles. À la limite, ça nous a peut-être ça a montré aux parents encore plus l'importance de l'école.
Merci à tous les quatre d'être venus au CDI. Si vous voulez faire un Scrabble, il y a 8 boîtes là, je vois, au fond, si vous voulez jouer avec les lettres ou aider vos enfants à travailler les lettres. Nous allons à nouveau parler de santé dans un instant, mais sous un autre aspect que le Covid. L'un des projets du moment ici à Saint-Florentin, c'est une maison médicale. On en parle avec le maire Yves Delot, le docteur Olivier Delarasse, qui s'apprête à quitter la région parisienne pour s'installer ici, et Tamida Abourahim, notre infirmière scolaire qu'on va retrouver. Le temps que tout le monde s'installe au micro de Béatrice Duguay, parole à Zacharia qui a fait sa rentrée en CM2 ce matin à Jean Pézenec. Content de retrouver les copains.
Je les connais depuis le CE1, CE2. Bonjour loup, famille. En fait, c'est un loup, il doit toucher tout le monde et celui qui touche, il est avec lui.
Donc ça, c'est la récré, c'est le mieux. Et en classe, vous avez fait quoi ce matin ?
On a travaillé, on a écrit notre poésie. La maîtresse, elle nous donne 2 poésies au choix et nous, on doit choisir.
Et tu as choisi laquelle ?
Ponctuation, les virgules, le point d'interrogation, plein de choses. Quand on devait faire le dessin, quand on avait fini. Et là, j'ai pas fini mon dessin.
Alors, il fallait se décrire ? aussi, non, c'est ça, dans les exercices du matin?
Ouais, on se décrivait.
Qu'est-ce que t'as raconté sur toi sans citer ton prénom, Zacharia?
Que j'avais les cheveux marrons, j'aimais bien jouer au foot, c'est tout.
Eh ben, bonne rentrée.
Merci.
L'école reprend sur France Inter, le 13-14, à Saint-Florentin.
Et ici, autour de la table du CDI, nous ont rejoint le maire de Saint-Florentin. Bonjour Yves Delot.
Bonjour.
Un mot pour présenter votre commune, 4500 habitants. On est à 1h30 de Paris en train, un peu plus de 2h en voiture. Cette école est donc en réseau éducation prioritaire. Saint-Florentin, c'est une commune qui a perdu des habitants ces dernières années.
Bah, c'est une commune, si vous voulez, qui a suivi le monde de l'industrie. On a eu un grand maire il y a une trentaine d'années, dans les années 50, qui a construit des zones industrielles, donc qui a, du coup, Saint-Florentin, c'est un bassin d'emploi de 3000 personnes, quand même.
Ouais.
On a fait
venir de la main-d'œuvre immigrée à ce moment-là.
Bien sûr, ouais. Parce que dans les années 70, si vous voulez, la main-d'œuvre n'était pas suffisante. Ouais. Donc voilà. Donc c'est après, il y a les barres des années 70 qui se sont construites, ouais, que moi j'ai en partie détruites.
Ouais.
Parce que justement, derrière, avec les crises économiques que tout le monde connaît, il y a eu une décroissance. On n'a pas perdu nos industries. On a eu une décroissance de nombre d'emplois et effectivement une perte de population. Une perte de population qui est plus une perte...
De 7 à 5 000,
oui,
pour le dire en
chiffre. De la ville, mais qui est restée dans la région.
Moins de mixité sociale dans la ville.
Alors un peu moins de mixité sociale, ouais, et c'est ce qu'on fait dans ces réemplois, justement, depuis plus de 10 ans maintenant, ouais, à reconditionner cette mixité sociale par beaucoup d'actions.
Qu'est-ce qui manque au plan médical dans votre commune, monsieur?
Il manque ce qui manque partout, c'est-à-dire qu'on avait une population de médecins relativement proche de la retraite, hein, même s'ils font, ils prennent la retraite souvent beaucoup plus qu'à soit, ouais, après 65 ans. Mais néanmoins, ben voilà, hein, la population médicale vieillit. Et si vous voulez, tout là aux jeunes. Et pourtant, on a beaucoup de jeunes qui sont passés par le collège de Saint-Florentin, mmh, et qui sont médecins. Mais enfin, comme tous les jeunes, ils préfèrent rester dans les grandes villes.
Ouais.
Donc, on avait du mal à recruter. Moi, ça fait 10 ans que je me bats avec ça.
Il y a combien de généralistes? 4500 habitants, combien de généralistes?
Alors, on
je
est.
Je ne veux pas vous piéger.
5-6 généralistes.
5-6 généralistes.
Hein, mais encore un qui va partir en retraite, mais qu'on va récupérer à mi-temps quand même.
On va parler de ça.
Voilà.
Tamida Abourahim, vu de votre poste à vous d'infirmière scolaire, la notion de désert médical, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qui manque ici? Et qu'est-ce que vous repérez chez les enfants et qui est difficile à soigner?
Il manque de médecins, en effet. On arrive parfois à avoir des familles qui nous disent que malheureusement, elles n'arrivent pas à avoir de nouveaux médecins traitants.
Oui.
Puisque comme le disait monsieur le maire, il y a des départs à la retraite, pas toujours remplacés. C'est pas évident pour eux de pouvoir trouver un nouveau médecin. Mais plus spécifiquement à mon travail infirmier, donc il y a des dépistages infirmiers et médicaux qui se font,
oui,
en école primaire. Ça permet de dépister des troubles de la vue, des troubles de l'audition, mais également des troubles des apprentissages.
Oui.
Donc parfois, ça nécessite des bilans orthophoniques. Et dès qu'il y a besoin d'un spécialiste, ça devient très compliqué dans Lyon. Et ça permet pas aux familles d'accompagner les enfants correctement.
Alors, si on se penche un petit peu là, en regardant par la fenêtre du CDI, on voit une cheminée allez quoi, 300 mètres à vol d'oiseau. Cette cheminée, c'est celle de la future maison médicale où officiera notamment le docteur Olivier Delarase. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Quand la maison médicale?
Oh, alors, si on parle en délai pur, vous savez toujours que c'est compliqué,
ouais,
mais on s'est donné un horizon, je pense, que assez légitime et puis qui peut être tenable à 2 à 3 ans.
2 à 3 ans.
On parle architecturalement.
Ouais.
On
viendra 2 ans.
Voilà. L'idée étant qu'il y ait une graduation dans cette installation, une première installation qui va intervenir effectivement dès le mois d'octobre, a priori, en tout cas sur cette fin d'année 2021.
Oui.
Je ne serai pas seul, je serai accompagné d'une de mes collègues qui travaille actuellement avec moi en Île-de-France, le docteur Bilgar.
Oui.
D'autres collègues sont intéressés au titre de certains remplacements pour justement aller découvrir ce département proche de l'Île-de-France, très accessible, vous venez de le dire il y a, ouais, quelques minutes, en train, en voiture.
Et où beaucoup de Franciliens sont passés au fil des confinements.
Exactement.
Ouais.
Et ils ont pu rester et s'apercevoir effectivement qu'ils avaient ce besoin de nature, ce besoin d'authenticité, ce besoin de patrimoine qui peut être trouvé ici. Alors le tissu médical, il a besoin d'être un, retissé, et,
ouais,
deux, resserré, si on peut dire.
Vous serez deux généralistes.
On sera deux généralistes.
Aujourd'hui, vous êtes médecin urgentiste au Blanc-Ménil, c'est
exactement
bien ça.
Exactement.
Qu'est-ce qui amène un urgentiste du Blanc-Ménil, vous exercez dans un hôpital privé. Qu'est-ce qui amène à s'installer, et j'imagine avec votre famille, si c'est pas aujourd'hui, en tout cas à terme, ici à Saint-Florentin?
Ce qui amène initialement, c'est en ce qui me concerne, alors là c'est une histoire très très personnelle, c'est le fait d'avoir acheté un bien bien avant le Covid pour le coup, donc il y a pas d'effet fuite confinement, et de s'apercevoir que je peux construire quelque chose qui rentre dans la dimension de ce que j'estime être la médecine de demain. La médecine de demain, c'est un maillage renforcé, c'est l'utilisation des outils numériques.
Il y a la fibre ici.
Il y aura la fibre même pas qu'ici, partout. Partout dans Lyon à l'horizon, je crois, deux ans, si je ne me trompe pas. Donc on devrait pouvoir justement rebondir sur ce que notre collègue infirmière soulignait, l'absence de contact avec les spécialistes, l'absence d'interaction, et c'est un peu tout ça qui est recherché. On a pu le voir très facilement au centre de vaccination auquel on a participé.
Vous avez participé au centre de vaccination.
Largement.
Et vous vous installerez provisoirement dans la mairie, hein, c'est bien ça?
Exactement.
Quels arguments on utilise, monsieur le maire, pour faire venir... Il s'agit pas de faire venir qu'un médecin, il s'agit de faire venir son compagnon ou sa compagne, éventuellement ses enfants, et souvent c'est ça qui bloque, c'est-à-dire que le médecin est prêt à venir, mais monsieur ou madame n'a pas d'emploi, donc ne peut pas venir. Comment on fait quand on est...
Il faut montrer que notre région est belle, et surtout, et le dire haut et fort, et souvent, il faut avoir envie de modernité. Oui. C'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on ne peut pas être moderne. Oui. Et donc, pour ça, faut passer par beaucoup d'investissements. Moi, ça fait 13 ans que je suis maire, et on a fait énormément d'investissements dans le monde culturel, dans le monde sportif. Et maintenant, Saint-Florentin va être un exemple pour beaucoup de monde, au moins dans Lyon, moi, si vous voulez. Mais on fait tout ça. Pas pour être intéressant, pour être intéressant pour faire venir du monde.
Aujourd'hui, ils vous disent quoi, les médecins? Ils vous disent, monsieur le maire, je viens chez vous, mais je sais pas, il me faut un cinéma, il me faut un emploi pour mon compagnon ou ma compagne. Ils vous disent quoi?
C'est normal. Ouais. Il faut, si vous voulez, d'une part, la vie aujourd'hui, c'est un temps de travail, un temps de loisir, et puis un temps pour dormir. Donc le temps de travail, il y a pas de problème, ils viennent pour ça. Mais en même temps, le temps de loisir, il faut bien l'occuper. Et si vous voulez, avec tous les investissements qu'on fait, que nous avons fait depuis plus de 10 ans, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se cultiver et se détendre.
On raisonne aussi en termes de territoire, c'est-à-dire à Saint-Florentin, les généralistes, dans la commune d'à côté, on essaye de mettre en place des spécialistes ou des infirmiers. On raisonne aussi comme ça?
C'est justement l'objectif, c'est de ne pas... Alors, il y aura le premier objectif qui va être local au sens de la communauté de communes Serein et Armance, qui sera cette maison de santé. Et il y aura en même temps un objectif que je vais présider, qui sera la constitution d'une communauté professionnelle territoriale de santé qui est sur laquelle on travaille avec l'Agence régionale de santé qui est déjà en cours de constitution et qui va nous permettre de rayonner beaucoup plus largement et d'avoir des interactions beaucoup plus simples et formalisées avec les spécialistes, les collègues.
Et ça veut dire aussi que vous allez prendre votre téléphone et convaincre des médecins de venir dans le coin?
Alors, je pense qu'ils sont déjà convaincus, finalement. Okay. J'ai pas vu forcément, par exemple, pour reprendre l'histoire du docteur Bilger, elle m'a simplement entendu en parler lors d'un coup de filet avec monsieur Delot et a sauté un peu sur l'occasion. Donc je pense justement que cette proximité de Lyon avec l'Île-de-France donne cette facilité de changer les idées et de participer à des projets beaucoup plus complexes, beaucoup plus dynamisants et qui alors c'est pas inintéressant en Île-de-France, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà préétablies sur lesquelles on ne peut plus intervenir.
Ouais. Un dernier mot, Tamida Abourahim, vous rayonnez jusqu'où? Une infirmière scolaire, ça vous rayonnez à combien de kilomètres pour mesurer le travail que ça représente?
On rayonne assez loin, finalement, puisque...
C'est quoi, une demi-heure de route?
On peut aller jusqu'à 20-25 minutes, peut-être pas la demi-heure, mais on y est presque. Et ça permet de voir toutes les petites communes autour qui sont également reliées à Saint-Florentin.
Et on arrive à bien suivre les enfants ou c'est une charge de travail importante?
C'est une charge de travail importante, mais on travaille en équipe. Donc on arrive tout de même à bien suivre les enfants.
Merci à tous les trois d'être venus participer au 13-14 ici à Florentin. Allez, une dernière histoire, non pas ici, mais à Carizet, à une quinzaine de kilomètres. Après 15 jours de pont aérien, la porte s'est refermée pour des milliers d'Afghans qui voulaient fuir leur pays aux mains des talibans. Eh bien, à Karizé, la boulangerie du village, le seul commerce ouvert pendant le confinement, est tenue par un couple d'Afghans. Nasser Moradi est arrivé il y a 10 ans. À l'époque, déjà, il fuyait la guerre et les attentats. Son périple entre son pays et la France a duré 3 ans. Sa compagne Kossar est arrivée, elle, en 2016. Ils ont un petit garçon, Omed, qui rentre en moyenne section. Ils ont pris la boulangerie du village au début de l'année dernière. Et hier soir, en arrivant dans le coin, eh bien, nous sommes allés saluer la famille une heure avant la fermeture.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Je vais prendre un pain de campagne, s'il vous plaît.
Un pain de campagne.
Si on doit acheter qu'une chose dans votre boulangerie, on achète quoi? À part du pain ou peut-être une baguette spéciale?
Après, nous ici, on a des gougères qui ça vient d'ici.
Ouais.
Qui est un peu une spécialité, on ne trouve pas sur Paris.
Ah, vous êtes devenu un vrai bourguignon.
Voilà. Là, par exemple, le bio, tu fais du pain en bio.
Ouais.
Qui tu travailles à l'ancien. Et mes baguettes, c'est pareil, je travaille à l'ancien, c'est pas pareil, c'est pas la même goût et c'est pas la même chose.
Ça s'est passé comment l'intégration en France pour vous, Nasser?
Ouais, très bien, très bien. J'ai déjà remercié les Français et la France pour nous accueillir. Un petit peu long par rapport aux démarches des papiers, des choses comme ça, mais voilà, c'est bien passé. Au départ, je suis allé pendant un an dans une collège pour apprendre le français. Après, j'ai commencé un apprentissage dans le chauffagiste et j'ai fait mon CAP chauffagiste, ça ne m'a pas trop intéressé. Et du coup, j'ai changé mon métier et je suis allé faire un CAP boulangerie. Et là, la boulangerie depuis 2015 et je suis dans la boulangerie.
Et vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé en France?
16 ans.
Et vous suivez ce qui se passe en Afghanistan? Vous avez encore de la famille là-bas? Est-ce que vous avez des nouvelles de la famille?
Oui, je suis tout le temps, mais je vois tout le temps sur les réseaux sociaux, par téléphone, je vois avoir des nouvelles, c'est pas des bonnes nouvelles, bien sûr, des familles là-bas, ils veulent tous partir, mais les tristes. J'ai eu téléphone, déjà, j'ai une cousin qui était dans l'armée d'Afghan. Là, il est vraiment carrément, il a disparu, on ne sait pas où, on n'a pas de nouvelles. Soit il a pris par les talibans, qu'il a coincé quelque part et le garde, parce que les talibans, ils ont des listes. Quand ils sont rentrés à Kaboul, toutes les villes, ils ont des listes. Et les gens importants, ils les gardent. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle à lui.
Et si vous deviez dire une chose aux gens qui arrivent aujourd'hui en France, comme vous, il y a 10 ans, qu'est-ce que vous leur diriez?
Moi, je leur dirais qu'il faut jamais, jamais baisser les bras. Il faut toujours garder le courage. Pensez devant vous, derrière, c'est passé, il ne faut pas rester derrière.
Comment se prépare la rentrée scolaire pour Omed?
Ça va, nous aussi on est contents, le petit aussi il est content.
Bonjour Omed.
Et j'ai un nouveau sac de dinosaures.
Ah, il a un nouveau sac de dinosaures.
C'est maman qui l'a acheté.
C'est maman qui a acheté?
Oui.
Ah d'accord.
Et ça t'inquiète ou t'es plutôt content d'aller à l'école?
Si, je suis content pour aller à l'école.
Voilà, et le petit Omed a donc lui aussi fait sa rentrée scolaire ce matin. Et à propos de son pays qui n'arrive pas à trouver la paix depuis des décennies, Nasser a cette phrase: les autres pays y arrivent, pourquoi pas nous?